Bonsoir, bienvenue à ce moment d'étude de la parole. Nous continuons ce soir notre étude de l'Épître aux Hébreux et nous avons commencé déjà il y a quelques semaines en regardant les chapitres 1 et 2 de l'Épître aux Hébreux. Et ce soir, ce que nous allons faire, c'est juste regarder 6 versets dans l'Épître aux Hébreux, c'est au chapitre 3, Hébreux chapitre 3, les versets 1 à 6. Et le sujet, comme j'ai noté ici, c'est Jésus, Moïse et nous. Et donc nous allons lire ce passage et simplement regarder ce que nous pouvons apprendre à partir de ce message qui a été adressé aux chrétiens dans l'Épître aux Hébreux. Donc Hébreux chapitre 3 et versets 1 à 6. C'est pourquoi, frères saints, qui participez à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession de foi, Jésus. Il a été fidèle à celui qu'il avait établi, comme Moïse le fut, dans toute la maison de Dieu. En effet, il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit la maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Car toute maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage à ceux qui seraient annoncés. Mais Christ l'est comme un fils sur sa maison. Nous sommes sa maison, si nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance et l'espérance dont nous nous glorifions. Donc si vous vous souvenez un peu de ce que nous avons vu dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 1 et au chapitre 2, nous avons vu Jésus comparé à déjà plusieurs figures importantes de l'Ancien Testament. Premièrement aux prophètes, ensuite aux anges, et il y a une longue discussion au chapitre 2 qui peut nous sembler même un peu étrange au sujet de Jésus et les anges, l'autorité et toutes ces choses. Et nous arrivons maintenant au chapitre 3 avec Jésus contrasté à Moïse. Et avant de nous plonger dans le texte, je crois que c'est important de poser la question, pourquoi est-ce qu'il se met à parler de Moïse? Quelle est la logique que l'auteur de l'Épître aux Hébreux est en train de suivre? Et la première chose, c'est comme on a vu, il y a ici une séquence qui ne va pas s'arrêter d'exemples de l'Ancien Testament qui sont contrastés avec Jésus. Et à chaque reprise, l'auteur de l'Épître désire montrer la supériorité de Christ à tout ce que l'Ancienne Alliance avait à offrir. Que ce soit les prophètes, que ce soit les anges, que ce soit Moïse ou les autres, il y a systématiquement ce désir de montrer que Jésus est supérieur à tout ce qui est venu avant. Et ça va continuer donc par la suite avec Josué, avec les souverains sacrificateurs, avec tous les héros de la foi, etc., etc. Et donc nous avons, premièrement, donc cet enchaînement de personnages de l'Ancien Testament. Et Moïse, bien sûr, on ne peut pas ignorer Moïse quand on parle des gens importants de l'Ancien Testament. Mais l'autre chose qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a vraiment une construction de ce sermon, de ce message qui est très minutieux. Et il y a un enchaînement logique ici qui aurait frappé ceux qui l'écoutaient à l'époque. Parce que à l'époque du Nouveau Testament, et ça on l'a mentionné il y a 2 semaines, mais les anges étaient associés de très près à la loi. Parce qu'on considérait que la loi de Moïse avait été délivrée, avait été donnée à Moïse par l'intermédiaire des anges. Et donc c'est tout à fait logique de passer d'une discussion au sujet des anges à une discussion au sujet de Moïse. Et bien entendu, l'auteur va se servir de ça pour enseigner sur la fidélité de Christ et d'autres. Et nous avons vu aussi que Étienne, par exemple, parle de la loi qui a été donnée par les anges, Paul parle de la loi qui a été donnée par les anges, et l'auteur aux Hébreux aussi. Donc si les anges sont considérés comme ceux qui donnent la loi, il y a une autre personne qui est considérée comme celui qui donne la loi, et c'est Moïse lui-même. Donc si on va parler des anges, il faut parler de Moïse aussi. Mais la troisième raison qu'on va parler de Moïse ici, c'est que ça fait vraiment partie d'un argument ou d'une explication sur pourquoi les chrétiens doivent rester fidèles. Et ça fait partie de cette exhortation à la fidélité. Malgré les doutes, malgré les persécutions, et on verra la prochaine fois, malgré les tentations du péché, les chrétiens doivent rester fidèles à Dieu, doivent rester fidèles à l'évangile prêché en Christ, malgré tout. Et nous savons qu'il y a des doutes, il y a des tentations, il y a des épreuves, et il y a toujours ce risque pour ces chrétiens de tomber. Au chapitre 2, les versets 1 et 3, nous lisons « C'est pourquoi nous devons prêter une plus vive attention à ce que nous avons entendu, c'est-à-dire l'Évangile, de peur d'aller à la dérive. Car si la parole prononcée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Ce salut, annoncé à l'origine par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Et donc, il y a cet avertissement, il dit, si on rejette la parole des anges, c'est-à-dire l'Ancien Testament et la loi de Moïse en particulier, et là, il y avait un risque dans l'Ancien Testament, il y avait un châtiment. À combien plus forte raison y a-t-il un châtiment de rejeter la parole, non pas des anges, mais du Seigneur, de Christ? Mais il continuera donc au chapitre 3, dans le passage que nous avons lu. Au verset 2, il y a ce rappel que Christ était fidèle à celui qu'il avait établi. Au verset 5, en parlant de Moïse, nous lisons « Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu ». Et on a « Christ était fidèle, Moïse était fidèle ». Et au verset 6, la conclusion, il dit « Si nous sommes sa maison, et nous sommes sa maison, si nous retenons l'assurance et l'espérance dont nous nous glorifions ». Et on entend, si vous lisez à haute voix à quelques reprises ce passage, vous entendez « Christ est fidèle, Moïse est fidèle et nous ». Christ est fidèle, Moïse est fidèle et nous. Est-ce que nous sommes fidèles aussi ? À la conclusion du chapitre 3, au verset 14, nous lirons « Car nous avons été rendus participants du Christ, si du moins nous retenons fermement jusqu'à la fin notre assurance première. » Et donc, la raison que nous abordons Moïse, cette comparaison avec Christ dans ce passage, c'est principalement comme un exemple à suivre, un exemple positif pour rester fidèle, pour rester ferme dans la foi, pour ne pas abandonner. Et ces comparaisons sont là, bien sûr, pour montrer Jésus, dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur, mais pour appeler aussi à une réponse, à une réaction de notre part. Et cette réponse, ça doit être la fidélité malgré les épreuves. Parce que si on croit à ces choses, mais on ne reste pas fidèle, cela ne sert à rien. Et donc, nous avons ici la première partie de l'argument, qui est l'exemple positif. Nous avons des exemples positifs à suivre pour rester fidèles. Est-ce que nous allons le faire? Nous verrons la semaine prochaine, au verset 7 et suivant, il y a l'exemple négatif à ne pas suivre. Mais je ne vais pas vendre la mèche trop rapidement. Bon, ce que nous allons faire, c'est très rapidement juste regarder Jésus, Moïse et nous et voir qu'est-ce que nous apprenons dans ce passage à leur sujet. Donc, maintenant, ça va être un peu interactif. On essaye depuis 3 semaines, mais on va y arriver. Qu'est-ce qui est dit au sujet de Christ ou de Jésus dans ce passage? Qu'est-ce que nous apprenons à son sujet au verset 1 à 6? Comment est-il décrit? Ok, il est le grand prêtre. Ou le souverain sacrificateur, en fonction de vos traductions, qui est là. Le grand prêtre de notre confession, ou que nous confessons. Ok, d'autres choses ?
Digne de gloire.
Ok. Ok, quoi d'autre ? Ok, digne, ouais, digne de gloire, comment on l'a dit ? Ouais, bien. Il est fidèle, très bien, il ne faut pas rater celui-là. Ok, d'autres choses ?
Il est fidèle comme un fils sur sa maison.
Ok, donc il est le fils sur la maison. Bien. Est-ce que vous avez vu autre chose? C'est déjà bien, je trouve. Bon, il y en a un qui frappe souvent les gens quand ils lisent, parce qu'il est appelé, pas seulement le souverain sacrificateur, mais il est appelé l'apôtre, n'est-ce pas? Ici, Jésus est décrit comme un apôtre de notre confession. Okay. Et puis, peut-être, c'est un peu un point d'interrogation, on n'est pas sûr, mais est-ce qu'il est le bâtisseur de la maison? Et au niveau du grec, ce n'est pas exactement clair. Mais peut-être qu'il est aussi le... Je vais juste mettre bâtisse, comme ça. Qu'il est le bâtisseur qui sont là. Donc, beaucoup de descriptions en très peu de mots, n'est-ce pas, au sujet de Jésus. Et donc, l'auteur aux Hébreux, il va commencer à décrire toutes ces choses au sujet de Jésus. Et cette première paire que nous voyons, qu'il est l'apôtre et le grand prêtre de notre confession. Bon, qu'est-ce qu'il signifie par cela? Parce que Jésus ne fait pas partie des 12 apôtres. Donc, on peut être d'accord qu'ici, c'est pas dans le sens que Christ a établi des apôtres sur l'Église et Jésus fait partie de ces apôtres. Mais quel est un autre sens du mot apôtre? Donc, apostolos, c'est le grec, on a juste translittéré en français, mais ça veut dire quoi, un apôtre? Okay. Donc, pas disciple, non, mais ça veut dire un envoyé, Ok. Ou quoi d'autre? Quelles autres idées qui sont là? Un messager, donc un envoyé, un messager, ou même il y a cette idée d'un ambassadeur, peut parfois être appelé un apôtre. Et ici, Jésus est décrit comme notre apôtre, c'est-à-dire celui que Dieu a envoyé, le messager ou l'ambassadeur qui vient vers nous pour représenter Dieu. Et ça, c'est très important parce que ça va revenir avec l'idée de Moïse aussi. Et puis, il est le grand prêtre ou le souverain sacrificateur de notre confession. Et si l'apôtre, c'est celui que Dieu envoie, vous savez, la fonction principale du souverain sacrificateur, c'est d'aller vers Dieu de la part du peuple. L'apôtre va représenter Dieu, va représenter celui qu'il a envoyé au peuple, mais le souverain sacrificateur va représenter le peuple auprès de Dieu. Et donc nous trouvons déjà dans cette première description vraiment une image complète de Jésus qui est le pont entre Dieu et les hommes. Il est celui qui va de Dieu vers les hommes, qui représente Dieu et sa parole auprès des hommes, mais il est aussi celui qui revient vers Dieu, le Père, qui amène et qui fait ce pont, qui représente Dieu devant le trône. Et il est ainsi, de cette manière, vraiment le chemin entre nous et Dieu. Il est celui qui nous permet d'avoir une relation. Et donc, si on veut utiliser le langage de l'Église catholique, c'est lui le souverain pontife. C'est lui le pont qui relie Dieu et les hommes. Et il n'y en a pas d'autre. Il n'y a qu'un seul souverain sacrificateur, qu'un seul apôtre au niveau vraiment complet que nous avons en Jésus. Il est décrit, bien sûr, souverain sacrificateur, il y a une référence à Aaron et ses fils. Ici, nous avons déjà un peu un avant-goût de ce qui viendra par la suite, qu'il y a un nouveau souverain sacrificateur dans cette nouvelle alliance qui a été établie dans le sang de Jésus. Il est décrit comme l'apôtre et le souverain sacrificateur ou le grand prêtre de notre confession. Et malheureusement, ça c'est un passage où il y a certains mots, certaines formes qui sont pas très claires. C'est un génitif ici de notre confession et deux possibilités. C'est soit il est en train de dire, et je crois dans second 21 c'est traduit ainsi, qu'il est le souverain sacrificateur ou le grand prêtre que nous confessons ou que nous reconnaissons publiquement. C'est-à-dire, en tant que chrétien, en tant que disciple de Christ, nous disons, c'est Jésus le souverain sacrificateur et personne d'autre. C'est-à-dire que notre confession se tourne vers Jésus et son rôle de souverain sacrificateur. Mais l'autre sens qui est tout à fait possible aussi, c'est que Jésus est le souverain sacrificateur dans notre foi, dans l'alliance dans laquelle nous vivons, qui a une confession de foi, qui est l'évangile. C'est-à-dire que Christ est le Fils de Dieu, qu'il est venu et qu'il est mort, ressuscité pour nos péchés, qui règne à la droite du Père. Et dans ce cas-là, Jésus est non seulement l'objet de notre confession, d'accord, mais il est le chef religieux de cette foi qui existe. Et donc, mais dans les deux cas, c'est vrai, n'est-ce pas? Et peut-être qu'il joue même sur le double sens. Jésus est celui que nous confessons comme notre souverain sacrificateur, mais il est aussi le chef, le souverain sacrificateur de cette foi qui est fondée sur lui-même. Donc, certaines traductions que vous aurez sont ambiguës, comme la colombe, d'autres tranches, mais il faut vraiment voir ces deux idées. Jésus est l'officiant de notre confession de foi, il est l'objet de notre confession de foi. Bon, Jésus est celui qui est fidèle, et c'est pour ça qu'il est digne d'une gloire plus grande que celle de Moïse. Mais il est fidèle en tout ce que Dieu lui a donné. Et quand on lit les évangiles, c'est frappant de voir parfois à quel point Jésus avait de la peine, avait de la difficulté en obéissant au Père. Il a toujours fait, il a toujours été fidèle parfaitement à la mission que le Père lui a donnée. Mais parfois, il doit dire aux disciples, pour encore combien de temps est-ce que je dois vous supporter? Okay. Parfois, il dit au Père, si c'est possible, que cela se passe d'une autre manière. Et nous pensons parfois à Jésus comme le super-héros invincible qui n'a aucune peine à accomplir la volonté du Père. Mais une des choses que l'auteur aux Hébreux nous rappelle et qu'une lecture des évangiles nous rappelle, c'est que la fidélité de Christ était pénible pour Christ. Que Jésus a dû souffrir, a dû faire des efforts pour être celui qui est fidèle. Ce n'est pas une fidélité gratuite. Et à cause de ça, ça devient une fidélité exemplaire. Parce que si Jésus avait dû faire aucun effort pour être fidèle, pourquoi le regarder comme notre exemple, n'est-ce pas? Il n'y a aucun point commun entre lui et nous. Mais un Jésus, un Christ qui a été tenté, qui a souffert en tout point comme nous, mais qui est resté fidèle, devient un exemple et une inspiration pour nous. Bon, il est finalement décrit donc comme le bâtisseur, peut-être. Est-ce qu'il parle uniquement par analogie ou est-ce que c'est plutôt la base ici? Bon, nous avons la maison et nous avons le bâtisseur. Et qu'est-ce qui est plus important, la maison ou celui qui l'a construit? Si on veut louer une maison, pas louer pour payer de l'argent, mais si on veut dire « Ah, que cette maison est belle okay. !» Qui est en train de recevoir la gloire pour la maison? Bon, c'est l'architecte, les constructeurs, ceux qui sont en train de le faire. Si on dit par contre une maison « Ah, oh, qu'elle est laide, qu'elle est moche !» D'accord, la maison ne va pas se sentir visée ou blessée. Par contre, ceux qui l'ont conçue, ceux qui l'ont construit, eux, ils vont être touchés par cela. Bon, on lit donc au chapitre 3, quand on parle de cette maison, au verset 3, verset 4, pardon. Toute maison est construite par quelqu'un, mais c'est celui qui a construit, celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Et ici, dans la comparaison avec Moïse, Jésus est comme celui qui bâtit la maison, et Moïse est comme la maison elle-même. Et qu'est-ce qui est plus grand? Bon, c'est le bâtisseur. Et peut-être ici, il y a une référence à ce qu'on a déjà vu au chapitre 1, le verset 2, où Jésus est décrit comme celui par qui tout a été créé, par qui Dieu a créé les mondes, et donc cette notion de créateur. Mais plus que le bâtisseur, et ça c'est vraiment important, c'est Jésus est le Fils sur la maison. La maison lui appartient. Okay. Comme il appartient au Père, le Fils est l'héritier et celui à qui revient à la maison, c'est-à-dire le peuple de Dieu. Et donc on voit toutes ces choses et finalement qu'il est digne de gloire parce qu'il est Fils. Parce qu'il est Fils dans la maison, un Fils qui a été fidèle en toute chose. Donc voilà ce qu'on apprend sur Jésus. Qu'est-ce qu'on apprend sur Moïse? Voilà, on peut se réveiller. Donc, c'est bien. Qu'est-ce qu'on apprend sur Moïse dans ce passage? C'est pas une question piège, hein, on peut y aller. Ok, fidèle. Quoi d'autre? Ok. Il est serviteur dans la maison, n'est-ce pas? Quoi d'autre? Ok, il rend témoignage. Ok, est-ce que vous avez trouvé autre chose? Moi, c'est ce que j'ai, c'est tout. Bon, bien. Alors, on arrive à Moïse et il faut savoir une chose qui est importante ici. L'auteur aux Hébreux peut contraster Jésus et Moïse de deux manières. D'accord. Une des manières qui peut les contraster, c'est en rabaissant Moïse. D'accord. En soulignant toutes les manières qu'il est imparfait et infidèle, contrairement à Jésus. Et est-ce que vous pouvez penser, bon nous on va un peu faire ça, à des fois où Moïse a été moins que parfait, où il a été infidèle, ou moins bon que Jésus. Quels sont ses défauts qu'on connaît des Écritures? À Meriba, oui. Donc Dieu lui dit de faire une certaine chose et dans la colère il frappe la pierre à Meriba et puis Dieu va le condamner pour cela. Okay, d'autres choses? L'étape de la loi, d'accord. Il se met en colère, on n'est pas sûr ce qui se passe, mais en tout cas il est emporté par la colère, n'est-ce pas? Quand Yahvé l'appelle, d'accord, depuis le buisson ardent. C'est quoi la réaction de Moïse? Non. Il dit non, je ne veux pas y aller. D'accord. Et il y a cette résistance qui est là. Et nous savons aussi que la fin de la vie de Moïse est assez tragique, n'est-ce pas? Il est à la tête d'un peuple infidèle, et puis il va mourir en dehors de la terre promise sans pouvoir entrer dans les promesses de Dieu. L'auteur aux Hébreux ne mentionne aucune de ces choses pour dire que Christ est supérieur à Moïse. Il ne va que mentionner le bien. Mais même en faisant cela, il va pouvoir montrer à quel point Christ est supérieur. Et ça, c'est quelque chose d'important à voir. On peut respecter, on peut élever et honorer ce qu'il y a dans l'Ancien Testament sans que cela n'abaisse Christ. Okay? Christ fait le poids, même face au meilleur de l'Ancien Testament, sans qu'on ait besoin de ressortir tout le péché, tout le mal qui est présent et dont l'Ancien Testament témoigne dans la vie des gens qui sont là. Mais il y a cette citation qui est là au sujet de la fidélité, et ça c'est vraiment ce qui est essentiel, la fidélité de Moïse, qui vient de Nombre chapitre 12 au verset 7. Et j'aimerais juste vous lire Nombre 12 verset 6 à 8, qui a le contexte un peu plus large, parce que ça montre cette fidélité et cet aspect remarquable de la vie de Moïse. Il faut savoir donc Aaron et Myriam, le frère et la sœur de Moïse, sont en train de le critiquer, et de dire pourquoi est-ce que Moïse a ce statut spécial dans le peuple de Dieu. On est tous des prophètes, les deux autres, hein, ils sont prophètes comme lui. Pourquoi est-ce que Moïse est supérieur? Et voici donc la parole de Dieu. Donc Nombre 12, versets 6 à 8. Il dit « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me ferai connaître à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle de vive voix. Je me fais voir sans énigme et il contemple une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse ?» Et vous voyez ce que Dieu est en train de faire ici dans ce discours avec Aaron et Myriam. Il dit, Moïse est comme aucun autre homme qui a jamais vécu. Il n'y a aucun prophète comme lui. Les autres, c'est des énigmes, d'accord? C'est des paraboles. Hein? Les autres, c'est des songes par lesquels je parle. Mais avec Moïse, je lui parle directement. Personne n'est comme Moïse. Et il est fidèle dans toute ma maison. L'auteur aux Hébreux prend ça et puis il est 100% d'accord. Il dit, la parole nous dit, il n'y a personne comme Moïse. Il est fidèle dans toute la maison. Il n'y a aucun prophète comme lui. Et pourtant, il est serviteur dans la maison. Malgré toutes les bonnes choses qu'on peut dire, on pourrait dire c'est le plus grand des prophètes, même si Jean-Baptiste, on sait, était encore plus grand. C'est le plus grand Israélite qui a jamais existé, mais pourtant Jésus est supérieur. Si ce passage insiste sur la supériorité de Moïse, cela servira à montrer à quel point Christ est encore plus grand que Moïse qui est venu avant. Il faut savoir, au premier siècle et dans les décennies qui vont suivre, il y a une sorte de vénération de Moïse qui commence à se développer. L'Ancien Testament montre les défauts de Moïse, mais on a commencé dans la pratique et dans la religion juive, surtout après la destruction du Temple, à ignorer ses défauts et à voir Moïse presque comme une figure angélique ou semi-divine. D'accord ? Et on ne pouvait rien dire de mal contre Moïse, c'était vraiment la perfection humaine. Bon, quoi qu'on puisse dire au sujet de Moïse, une chose qui est certaine, c'est que Christ, que Jésus est supérieur. Il est plus grand que Moïse. Et si Moïse est digne d'un certain respect, d'un certain honneur, combien plus Christ lui-même? Parce que Dieu lui-même, qui dit que Moïse est comme personne d'autre, rappelle que Moïse n'est qu'un serviteur dans la maison. Et c'est un serviteur qui rend témoignage, certes, mais il est serviteur tout de même. Mais si Moïse est serviteur, Jésus est le Fils, pas dans la maison, mais sur la maison. Il est le propriétaire. Comme j'ai dit, dans ce contraste, le but n'est pas d'abaisser Moïse, mais de montrer à quel point en Jésus, nous avons quelque chose de complètement nouveau. Nous avons une relation tellement meilleure. Moïse était un témoin, il était un ambassadeur de la part de Dieu. Il était celui qui représentait Yahvé au peuple d'Israël. Mais en Christ, nous avons un meilleur apôtre. Et si Aaron était souverain sacrificateur, c'est quand même Moïse qui doit intercéder pour le peuple le plus souvent et au moment les plus importants. Moïse va aller auprès de Dieu pour plaider la cause d'Israël, pour supplier Dieu d'épargner Israël, de rester avec eux. Et il est un bon représentant d'Israël. Mais Christ est un meilleur représentant de l'humanité que même Moïse. Moïse, c'est la maison, mais Christ, c'est le bâtisseur. Moïse est le serviteur, mais Christ est le Fils. Et nous voyons sans arrêt à quel point Jésus est supérieur à Moïse. Il est tout simplement meilleur dans tous les aspects, parce que à cause de son identité en tant que fils. Moïse ne peut rien offrir que Jésus ne peut offrir qui est meilleur. Hein? Il n'y a aucune raison de revenir en arrière vers Moïse, mais surtout il n'y a aucune raison de mépriser Jésus, parce qu'on a vu ce qui s'est passé pour ceux qui ont méprisé Moïse, n'est-ce pas? Quand Aaron et Myriam ont méprisé Moïse, il y a eu cette réponse de Dieu, cette punition de Myriam. Lorsque les Israélites refusent de suivre Moïse, ils sont morts dans le désert. Si c'est ainsi que Dieu traite ceux qui méprisent son serviteur, comment est-ce qu'il va traiter ceux qui méprisent son fils? Vous voyez, ça c'est le message qui est censé être apporté par ce passage. Bon, on a vu ces deux, on va terminer avec le « nous ». Bon, en fait, c'est les premiers chrétiens qui ont lu cette lettre. Mais comment sont-ils décrits? Et de nouveau, on va noter. Qu'est-ce que l'auteur dit à leur sujet? Quels sont leurs titres? Ok, ils sont saints. C'est quand la dernière fois qu'on vous a appelé saints? Ok, quoi d'autre?
Nous sommes sa maison.
Ok, il dit, nous sommes sa maison. C'est l'habitation de Dieu. Ok? D'autres choses? Okay. Il dit aussi frère, ou peut-être que vous avez dans vos traductions frère et sœur, d'accord? Mais le terme qui est là, c'est frère. Donc, ils sont les frères saints. Et puis, il dit aussi, au verset, c'est toujours au verset 1, okay? Il dit, vous participez à, qui participez à l'appel ou la vocation céleste. Okay? Et on a ces quatre choses, en tout cas, qui sont frères et sœurs, qui sont saints, qui participent à l'appel céleste, et puis qui sont la maison de Dieu. Et c'est des choses très positives, d'accord? De dire ça de vous, bon, on se dit, waouh, ça c'est quelque chose qui est extraordinaire. On communique par ceci, premièrement, qu'ils sont une famille, une communauté proche. C'est pas les frères et les sœurs de sang, mais par l'Esprit de Dieu. Et l'auteur peut dire, vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs dans la foi, sans exagérer, sans ironie. Mais il dit aussi que vous êtes saints. Un terme très 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 important dans l'Ancien Testament, surtout pour parler d'Israël sous Moïse, mais c'était ceux que Dieu avait mis à part, ceux qui appartenaient et qui ressemblaient à Dieu. Et là, il dit, vous êtes ceux qui ressemblent à Dieu, vous êtes ceux qui lui appartiennent d'une manière vraiment spéciale dans ce monde. C'est intéressant, on appelle les chrétiens beaucoup plus souvent des saints dans le Nouveau Testament qu'on les appelle des chrétiens, par exemple. Je crois que chrétien, c'est deux, voire trois fois qu'on utilise ce terme. Tandis que saint, bon, c'est à plusieurs reprises. En Actes chapitre 9, Pierre, il va visiter les disciples qui sont à Lydda et Luc nous dit, bon, il va visiter les saints qui sont là. J'ai étudié la Bible avec quelqu'un, ils ont dit, mais quel saint habitait à Lydda? Parce qu'on connaît tous les saints, n'est-ce pas? Saint Matthieu, Saint Paul, etc. Bon, les saints, c'est les chrétiens. C'est le terme qui est utilisé là. Ils participent à la vocation céleste ou à l'appel céleste. Dans l'Ancien Testament, Dieu appelle les gens. N'est-ce pas? Il appelle Moïse depuis le buisson ardent. Il appelle Israël hors d'Égypte. Bon, maintenant, il est toujours en train d'appeler. Et tous ceux qui ont foi en Jésus-Christ sont ceux qui sont appelés par Dieu. Et finalement, ils sont la maison de Dieu. Et de nouveau, quel terme riche. Le tabernacle était la maison de Dieu. Le temple était la maison de Dieu. La communauté d'Israël qui entourait le tabernacle était la maison de Dieu. Dieu avait mis sa présence au milieu d'eux. Bon, désormais, c'est ces chrétiens qui sont la maison de Dieu. Et on utilise ces termes si riches, si nobles pour parler d'eux, malgré le fait que nous savons que ce n'étaient pas des chrétiens parfaits, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on peut dire à leur sujet? Ce sont des gens qui sont faibles dans la foi, qui risquent de tomber. Et c'est pour ça qu'il y a tous ces avertissements sans arrêt qui disent n'abandonnez pas la foi, n'abandonnez pas la foi. Ces chrétiens faibles dans la foi, qui sont persécutés, qui risquent de tomber, sont pourtant appelés les saints, appelés de Dieu, la maison de Dieu. Ce sont des gens immatures dans la foi quand ils devraient être des adultes dans la foi. Au chapitre 5, les versets 11 et 12, nous lisons « Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires, des oracles de Dieu. Vous êtes venus à avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. » L'auteur aux Hébreux peut leur dire toutes ces critiques. Dire, vous êtes trop immature dans la foi. Vous êtes à risque de perdre votre foi, de perdre le salut qui vous est donné. Mais pourtant, il n'hésite pas à les appeler les saints, la maison de Dieu, les appelés de Dieu. Et je sais qu'aujourd'hui, nous avons parfois tendance, et je crois que c'est vraiment motivé par l'humilité, de parler de l'Église ou de parler des chrétiens comme des pécheurs, comme des gens, comme tous les autres, d'accord, qui... on n'est pas meilleurs, on est tous des pécheurs, on a tous besoin de la grâce de Dieu. Et tout ça, c'est vrai. Okay? C'est tout à fait biblique. Mais ce qui n'est pas biblique, c'est de parler de l'Église comme des pécheurs. C'est de parler de l'Église comme des tas de malades spirituels qui ont besoin de traitement. Okay? Même si ces choses sont vraies, ça, c'est les choses que nous étions. Et quand les auteurs du Nouveau Testament parlent des chrétiens, ils parlent en des termes extrêmement élogieux, tout en les critiquant pour leur manque de foi, pour leur péché et ces choses-là. Mais la manière de parler de l'Église, la manière de parler des chrétiens, c'est de dire, vous êtes des saints, vous êtes une nouvelle création. Vous êtes membre de la famille de Dieu, vous êtes membre de Christ. Et c'est très rare d'entendre dire, bon, parfois ça arrive, vous êtes charnel, vous êtes des pécheurs. Ça arrive, mais c'est extrêmement rare. La manière de parler de nos frères et sœurs dans la foi, c'est dans ces termes élogieux, glorieux, qui viennent pas de nos propres bonnes œuvres, de notre propre supériorité spirituelle, mais plutôt celle de Christ qui nous est attribuée. Et moi, ça me fait réfléchir, en tout cas, en me demandant comment est-ce que moi je parle de l'Église? Comment est-ce que moi je parle des chrétiens? Est-ce que par humilité, j'évite de parler aussi bien que la Bible elle-même parle de mes frères et sœurs dans la foi, même ceux qui sont faibles, ou même surtout ceux qui sont faibles? J'aimerais juste terminer, on a vu ces choses au sujet de Jésus, Moïse et nous, avec deux exhortations très, très courtes. La première, c'est ce que l'auteur dit lui-même. Il dit « considérez Jésus okay. ». Réfléchissez à Jésus. Là, le terme qui est utilisé, c'est le même que Jésus utilise dans le sermon sur la montagne, quand il dit « regardez les oiseaux et réfléchissez à comment Dieu s'occupe d'eux ». Nous sommes appelés en tant que chrétiens à considérer Jésus, à regarder pas seulement ses commandements, ses enseignements, mais sa vie, et de réfléchir à comment il a vécu et ce que cela signifie pour nous. Nous ne pouvons pas regarder Jésus en train de marcher dans la rue aujourd'hui. Mais comme les premiers, ces chrétiens qui ont reçu la lettre, nous le connaissons à travers le témoignage des apôtres et de ceux qu'il a envoyés. Et combien de temps est-ce que nous consacrons chaque semaine à considérer Jésus, à lire son histoire, à méditer sur ses actions, sur son attitude et sur ses œuvres pour que nous puissions grandir dans la foi? Parce que si ces chrétiens avaient considéré Jésus plus, il y aurait eu beaucoup moins de faiblesses auxquelles il fallait remédier dans cette lettre. Ils avaient besoin de considérer Jésus pour être forts dans la foi. Nous pouvons mémoriser la Bible sans considérer Jésus. Notre désir, c'est d'ouvrir les Écritures, de les lire régulièrement et souvent, mais dans ce but de voir Jésus et de l'examiner pour que nous puissions le suivre et suivre son exemple. Et la deuxième chose que j'aimerais juste qu'on voit pour terminer, c'est cette notion de faire attention à l'idée que Jésus est en quelque sorte un second Moïse. C'est vrai que dans Matthieu et dans d'autres évangiles, parfois on a ces thèmes mosaïques pour Jésus. Il va faire les mêmes choses que Moïse. Il va enseigner le peuple, il va traverser la rivière, n'est-ce pas? Il va aller dans le désert pour une tentation de 40 jours, etc. Mais l'auteur aux Hébreux veut vraiment insister ici sur la supériorité de Jésus, pas parce qu'il a agi différemment que Moïse, mais parce qu'il est différent que Moïse, dans son être, dans son identité. Il est fils et Moïse est serviteur. Il y a une différence de genre qui est là. Il y a une différence d'être, pas seulement d'action. Et pour nous aujourd'hui, ce danger de voir Jésus comme un second Moïse s'exprime de deux manières. Une manière, c'est ce que nous voyons chez les païens, et c'est de dire, bon, Jésus, c'est juste un réformateur religieux. Moïse vient avec une parole de Dieu, une religion. Jésus vient avec une deuxième religion, une deuxième parole de Dieu qui est différente, okay? Qui est peut-être meilleure, qui est peut-être moins bonne. Mais c'est simplement Jésus comme une figure qui parle de la part de Dieu. Mais Jésus dit pas qu'il parle de la part de Dieu uniquement, mais qu'il est Dieu qui est venu chez nous. Jésus est beaucoup plus que le porteur d'un message. Il est le message. Il est lui-même le chemin. Et dans la mesure où nous voyons Jésus simplement comme quelqu'un qui apporte un message séparé de lui-même, qui apporte une religion ou un système pour arriver vers Dieu, nous avons raté l'essentiel. Et nous ne connaissons pas l'Évangile, et nous ne connaissons pas Christ pour qui il est. Jésus n'est pas un second Moïse dans ce sens-là. Mais l'autre piège, si parfois on le voit comme un réformateur religieux, c'est parfois on voit Jésus comme un second Moïse parce qu'il amène une deuxième loi de la part de Dieu plus facile. Que jusqu'à Moïse, c'était bon, des règles difficiles, hein, c'était 5 livres de la loi. Mais maintenant, on a les épîtres qui sont beaucoup plus courts que la Torah, que les 5 livres de la loi. Avant, il fallait être circoncis, ça c'est douloureux, mais maintenant il faut être baptisé, ça c'est moins douloureux. Avant, il fallait faire attention à ce qu'on mange, mais aujourd'hui, on ne doit pas faire attention à ce qu'on mange pour être pur devant Dieu. Et je ne dis pas que c'est le cas pour vous, mais parfois on a ce danger, on a ce risque de dire simplement « Jésus est venu pour nous donner une loi plus facile ». Et ça, ce n'est pas l'Évangile non plus. Si vous voulez un nouveau prophète avec une nouvelle loi plus facile, convertissez-vous à l'islam. Ça, c'était la promesse de Mohammed qui dit « Bon, je ne vous donne que 5 règles ». Vous pouvez les suivre, pas 5 livres, mais 5 règles. Et vous êtes en ordre avec Dieu. Jésus amène autre chose que des règles, même s'il demande l'obéissance, même une obéissance plus grande que celle de l'Ancien Testament. Jésus vient lui-même pour mourir pour nos péchés. Il vient lui-même pour faire le pont entre Dieu et nous. Ce n'est pas notre obéissance ou nos œuvres qui nous permettent d'être en communion avec Dieu, c'est Christ lui-même. Il vient lui-même comme la révélation ultime de Dieu. Pas juste des paroles, mais dans sa personne. Et donc, Jésus n'est pas non plus un second Moïse, parce que lui, il n'a même pas un message de quelqu'un d'autre. Lui, il vient comme celui qui accomplit tout ce que Dieu veut. Il vient comme celui par qui et à travers qui nous entrons en communion avec Dieu. Et donc ça, c'est le message de Jésus, Moïse et nous. Jésus est fidèle comme fils à tout ce que Dieu a fait. Moïse était fidèle. Et la question pour nous qui avons reçu cette identité comme les saints, comme la maison de Dieu, comme les frères en Christ, est-ce que nous allons être fidèles? Et ça, c'est mon désir et notre prière pour chacun.